wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Et autour de moi ce soir, dans cette dispute consacrée aux musiques actuelles, Sophie Rosemont, Thomas Corlin et Olivier Lam, et sur nos platines, 'Cause I Love You de Lizzo chez Warner, Reward de Kate Lebon chez Warp, Flamagra de Flying Lotus chez Mexican Summer, et puis il y aura un coup de cœur de Sophie Rosemont, il ira à California Sun de Morrissey chez BMG. Et nous ouvrons cette dispute avec le troisième opus de l'américaine Lizzo, alias Melissa Jefferson, née à Détroit comme Aretha Franklin, élevée à Houston comme Beyoncé. Un album sur la couverture duquel on la découvre nue et imposante, le regard plein de défis, assumant un programme de célébration de soi, celui, je la cite, d'une femme noire, grosse, féministe et alliée de la cause LGBT. Alors peut-être qu'avant de l'écouter, vous allez me dire en un mot ce que vous en pensez. Olivier Lam, pour commencer. Un mot, voilà.
Voilà.
Thomas Corlin.
À ce point. Ouais, je sais pas, c'est un disque de R&B glam pop amusant, mais pas vraiment signé, qu'on aurait bien voulu aimer si ce n'est pas comme du Katy Perry, quoi.
Sophie Rosemont.
Une sympathique distraction.
On écoute tout de suite un des tubes de l'album Juice. Alors Sophie Rosemont, un petit mot sur le parcours de Lizzo jusqu'à ce dernier album.
Alors, comme vous l'avez dit très très bien Lucille, effectivement on est à Détroit, elle s'est installée à Houston au début de l'adolescence où pour se consoler des brimades de ses petits camarades, elle écoutait Beyoncé, mais aussi Debussy et Radiohead, elle a étudié la musicologie. Elle a essayé de lancer plusieurs groupes de rap, je pense une bonne demi-douzaine sans grand succès, a sorti un premier album en 2013 que je trouve assez réussi, Lizzo Banger, c'est un deuxième en 2015, Big Girl, Small World avec les trois R des Riot Girls, je tiens à le préciser, c'est important. Et donc elle est de retour avec Cause I Love You, où elle a visiblement pour objectif d'élargir son audience tout en continuant à donner des leçons de twerk et de flûte traversière de manière simultanée, et moi ça me plaît pas mal, mais en gros pour situer Lizzo c'est ça, et elle a 31 ans, donc là j'en ai envie de mélanger plein de choses, et elle dit souvent qu'elle emmerde les cases parce que de toute façon elle est trop grosse pour rentrer dedans.
Oui, la flûte traversière, elle nous en parle beaucoup, mais on n'en voit pas beaucoup la couleur hein, dans l'album.
J'étais non, pas vraiment, non.
En tant que flûtiste, Olivier Lam, quelle spécificité dans la grande galaxie des chanteuses pop d'aujourd'hui pour Lizzo ?
Bah, très peu, justement. c'est ça qui est. Elle a une belle voix, une voix puissante. Enfin, elle a une belle voix, une voix puissante, une voix qui est raillée au bon endroit. Mais à part ça, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, on nous la vend comme un objet. J'ai des objets parce que pour le coup, on parle vraiment là de vente. Pas comme les autres, une femme, pas comme les autres, en normes, etc. Et le disque est vraiment très très puissamment générique à plein de niveaux, à l'exception peut-être de 2-3 morceaux dont on pourra parler. Et je trouve que c'est plus qu'une limite, c'est vraiment une contradiction qui en dit long vraiment sur la pop d'aujourd'hui, parce que il y a vraiment c'est plus qu'une hypocrisie. On a l'impression qu'elle est coincée entre ce qu'elle nous vend et ce qu'elle nous donne à entendre. Et je sais pas jusqu'à quel point c'est dans l'intérêt et d'une volonté de la part de l'artiste. Mais il y a plusieurs morceaux. On oscille vraiment entre, on va dire, pour la meilleure veine, un funk 80s très princien. Elle a collaboré avec Prince, hein, d'ailleurs. Elle a chanté avec lui. Apparemment, il ne savait pas qu'elle était multi-instrumentiste. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très princien. Mais alors vraiment, faut vraiment aller tout au fond de la longue discographie de Prince pour trouver des choses aussi banales. Mais des morceaux qui n'emmènent pas du tout, comme celui que l'on a écouté, qui nous emmènent pas du tout au-delà du petit vertige doudou, j'ai envie de dire. Il y a le morceau avec Missy Elliott qui est très bon, mais parce que c'est du Missy Elliott. Il y a malheureusement des choses très dans l'air du temps d'il y a 4-5 ans, d'une pop blanche et noire en même temps, toutes les productions de Max Martin, etc., dans ce prolongement de cette utopie pop suédoise des années 90. Il y a de la sophistication, mais il y a vraiment pas de... Il y a très peu d'incarnation, il y a très peu d'originalité, il y a beaucoup de travail de la part de gens qui savent très bien ce qu'ils font, mais et elle là-dedans, elle scande des slogans. Après, on pourra y revenir parce que chaque chanson en soi porte un discours, mais la musique derrière suit pas du tout.
Thomas Corlin, sur la patte musicale, aucune spécificité?
Bah alors justement, j'ai un peu la même sensation, je me pose aussi les mêmes questions qu'Olivier. Bon, déjà clairement, musicalement, je pense qu'on peut balayer l'album assez vite. J'ai un peu la sensation d'écouter un Christina Aguilera, mais vraiment pas très inspiré, c'est ni bon ni mauvais, ou un Katy Perry, ou alors même, j'ai pensé, je crois qu'ils ont le même producteur, c'est Meghan Trainor, qui est un peu une artiste qui cartonne à l'étranger avec ses gros tubes hyper génériques, genre All About That Bass, ou des trucs comme ça. Et il y a un ou deux morceaux les deux seuls, je pense, qui vraiment me revenaient, c'est effectivement le morceau avec Missy Elliott, mais bon, on va dire qu'il est cadeau, quoi. Enfin, il fonctionne tout seul. Et un autre morceau, un petit peu Cry Baby, qui est un peu une patte émotionnelle un peu différente. Je pense que la vraie question que ça pose, c'est vraiment, enfin, une question que ça pose plein d'autres artistes, enfin, le cadre plein d'autres artistes pose aussi, c'est la question de du fond et de la forme. C'est-à-dire, comment est-ce que des acteurs, donc clairement militants, donc issus des minorités, adoptent le langage de la culture dominante sans même vraiment le subvertir ni quoi que ce soit.
Mais donc ça là, a c'est toujours été le cas de la toujours. Contre-culture américaine.
Ça arrive toujours, mais il y en a quand même qui font l'effort un tout petit peu de donner un signe distinctif, parce que là l'album je le trouve vraiment pas signé. C'est vraiment une artiste qui en plus est toujours située un peu entre l'indie et le mainstream pendant assez longtemps. Elle a tourné avec Sleater-Skinner ou des choses comme ça, et là elle a vraiment décidé de confier sa carrière à une major pour vraiment s'installer sur le devant de la scène et le faire sérieusement, même si je crois qu'elle a eu un problème à Coachella quand elle a eu des problèmes techniques à Coachella pour son grand set. Et en fait, il y a un peu ce truc, donc d'un côté, c'est ce genre d'artiste qui se retrouve à l'avant-garde de causes sociétales, donc en incarnant donc la cause du girl, black power, du body positif. Elle le fait plutôt d'ailleurs avec beaucoup d'humour, de panache. Enfin, c'est assez réjouissant. Et de l'autre côté, bon, elle est entre guillemets assez conservatrice parce que ben elle emploie, mais sans vraiment aucun recul, les codes de l'industrie, de l'entertainment. Alors, est-ce qu'elle le fait finalement, j'ai envie de dire, presque au nom d'un militantisme pur et dur? C'est peut-être le cas. Moi, ça m'a rappelé un truc. Enfin, c'est une question qu'on se pose souvent. C'est le cinéaste Raoul Peck, quand il avait fait ce biopic complètement lourdin, hyper nunuche sur Marx. On l'a un peu foncé dedans en disant, bah, franchement, enfin, voilà, vous faites un film hyper cucu et tout. Il a fait, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est utiliser le langage des dominants pour parler de communisme au grand public. Alors, est-ce que l'ISO aussi se dit que c'est le message qui est le plus important, quoi?
Sauf heureusement.
En fait, je trouve qu'elle a une voix formidable, mais j'aime pas tant que ça quand elle chante. Je préfère vraiment quand elle rappe, et elle rappe d'ailleurs très bien sur ce morceau, donc Tempo avec Missy Elliott, que je trouve formidable. Mais j'aime beaucoup aussi celui avec Gucci Mane, et qui me font penser à ses deux albums précédents, que je crois que je préférais à celui-ci. Maintenant, il y a une énergie, enfin ce côté diva, baroque, à la fois larmoyante et à la fois femme puissante de cause à Love You marche bien. Clairement, il y a plein de choses qui marchent bien, mais disons que je crois qu'on mélange trop ce côté du manifeste de « je suis une femme, je suis ronde, je suis noire, à la base en plus je suis pauvre et voilà, je m'impose au monde, je m'impose dans ce monde cruel » mais qui est évidemment complètement appréciable et bienvenu, surtout actuellement, enfin toujours autant, et la qualité musicale de l'album que je trouve inégale. Il aurait peut-être gagné à être plus court. Ce qui n'est pas le cas des deux autres albums.
Il est très court.
Oui, mais là, peut-être un IP aurait été... Non, voilà, peut-être qu'un format IP aurait été peut-être mieux, parce qu'il y a quand même 4-5 morceaux vraiment dispensables. Alors moi, Cray Baby, j'ai envie de l'assommer. Jérôme, je trouve ça gnangnan. Butter
c'est
and Color...
C'est les titres un tout petit peu plus longs qui sont rares.
Heaven Help Me, on a envie que le ciel nous aide à ce que ça passe plus vite. Ça aurait pu être un bon IP. Après, évidemment, qu'elle m'est extrêmement sympathique. À chaque fois que je la vois sur ses passages télé, justement, avec l'histoire du twerk, de la flûte traversière, et même, elle a un sacré répondant, et je veux pas faire Sophie Rosemont l'ami des stars, mais tout à l'heure, j'étais avec Corinne Tucker de Sleater-Kinney qui me disait à quel point elle adorait Lizzo et à quel point c'était une personnalité intéressante, qu'elle avait passé des soirées à discuter. Donc je pense qu'en plus, elle a une culture musicale bien plus large que ce dont témoigne en fait cet album. C'est peut-être ça qui est dommage. Est-ce qu'il n'est pas trop petit pour ce qu'elle peut donner? C'est peut-être ça la question.
Moi, je me suis posé la question de sa voix parce qu'on l'entend très peu au final, sa voix, alors qu'elle a l'air d'avoir une forme de spécificité, mais elle est tellement... prise dans des formats extrêmement en effet marketés qu'on l'entend à peine, et c'est vrai que les morceaux qui sont un peu plus lents, on a l'impression que ça pourrait s'épanouir un peu, être un peu plus naturel, donne pas grand chose. Olivier Lam,
non, mais il y a vraiment un différentiel tellement vertigineux entre la manière dont l'objet nous est vendu et ce qu'il est en réalité, que j'ai l'impression que personne n'ose vraiment parler du disque. Tous les articles sont sur qui elle est, ce qu'elle représente, etc.
Mais là
en plus on a un objet de fixation PC, comme disent les Américains, politiquement correct, c'est-à-dire qu'effectivement personne ne pourra dire du mal de ce disque parce que personne n'a envie de dire du mal des causes qui sont défendues par l'ISO. Et là, on est vraiment, ça montre vraiment un point d'articulation intéressant de la culture américaine politique et de l'entertainment actuel, qui vraiment ne sait plus vraiment sur quel pied danser avec certains objets. Là, comme ça, qui s'avance. La pochette est formidable. C'est un slogan en soi, et en même temps, le disque n'a rien d'autre de plus à offrir que là. Je vais prendre une citation que je trouve assez intéressante du site Pitchfork, qui est elle est cheerleader for herself, elle est cheerleader pour elle-même, et finalement c'est vrai qu'elle se vend en permanence en vendant ses causes, en vendant sa différence entre guillemets, en vendant ses différences, en vendant c'est finalement elle est dans quelque chose de... Voilà, moi je trouve qu'il y a trop d'ego dans l'art actuellement, et là il y a beaucoup d'ego, et le moment où l'ego se confond avec les causes politiques et sociales, sociétales, moi je sais plus vraiment sur quel pied danser, surtout quand j'ai un objet dont effectivement certaines chansons pourraient être chantées par Katy Perry, pas toutes, il y en a, et les autres les plus originales entre guillemets, en gros c'est du doo-wop produit à la sauce aujourd'hui avec avec une sophistication qui en vérité est juste faite pour bien sonner dans les iPods, enfin dans les téléphones. Enfin moi je trouve que c'est un objet assez désagréable au final, ce qui est dommage, parce qu'effectivement, voilà, comme dit Sophie, elle est sympathique. Enfin, en tout cas, on nous la vend comme sympathique. Moi, je sais pas ce qu'elle est vraiment.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autodérision aussi quand on écoute un peu les textes de ses chansons sur cet égo trip que constitue l'album, qui de toute façon est maintenant une forme de norme autant dans l'industrie du disque.
Bah justement, elle devrait l'affirmer. Cet égo trip, tant mieux. Justement, ça serait. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'elle a fond là-dedans, et il faut avoir, faut qu'elle fasse exploser cet égo, et peut-être qu'il aurait explosé davantage si elle avait Bah, oser davantage d'audace.
Et musicalement, ça prendrait quelle, justement, ça pourrait prendre quelle forme?
Bah, moi, une fois encore, voilà, le rap me manque un peu, même si je pense qu'elle a tout d'une diva soul aussi, mais je la trouve plus efficace, en tout cas pour l'instant, sur les morceaux du rap. Et peut-être, voilà, une pop un peu plus expérimentale, elle en est capable. Elle a été elle évolue dans les scènes indie, Thomas le disait tout à l'heure, depuis suffisamment longtemps. Ou même faire du mainstream avec quelque chose un peu plus rugueux, un peu plus insolent. Voilà, Cardi B fait très bien. Donc,
juste écrire des bonnes chansons.
Thomas, quoi. Oui, après, je trouve qu'en fin de compte, un des atouts du disque, justement, c'est le registre un petit peu égotrique du truc, parce que c'est une manière de faire du militantisme un peu plus fun, je pense, que en général le registre larmoyant qu'on nous sert. Néanmoins, le côté hyper banal donc du disque, bon, après j'imagine que les directeurs artistiques de Major savent très bien ce qu'ils font quand ils lui conçoivent ce genre de choses, mais je pense quand même que, enfin, j'ai une intuition qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense quand même que dans la pop, quoi qu'il en soit, on incarne beaucoup de choses, on incarne beaucoup plus que ce qu'on est, tout simplement, et que sa musique. Je pense pas que ça marche quand on amène un disque qui n'a pas de signature comme ça. Je pense que j'ai du mal à imaginer comment est-ce que ça pourrait vraiment marcher. Quand même, le grand public a quand même besoin d'un minimum, d'un petit détail, quelque chose. Il n'y a rien dans le disque qui se distingue.
Moi, j'ai l'impression qu'on peut prendre des exemples. Taylor Swift, par exemple, qui fait des disques extrêmement génériques et donc, dans lesquels les gens, j'ai l'impression, ont envie se projettent énormément. Il y a une résonance qui se fait avec un public parce que le storytelling, les histoires qu'on nous raconte autour de chaque chanson sont vraiment prises pour argent comptant, et il y a quelque chose d'une fiction pop qui fonctionne, en tout cas dans ce contexte-là. Oui, Katy Perry, ça a fonctionné pour un album, ça n'a pas fonctionné pour le dernier. Elle s'est coupée les cheveux, elle est partie dans une... voilà, et ça n'a pas marché, elle va rechanger de braquet pour le prochain. Là, je pense qu'il y a un problème sur... ça fait des mois qu'on nous dit que l'ISO va sortir... la plupart des gens n'avaient pas jamais entendu parler de ces deux disques précédents, ils n'avaient jamais entendu parler d'elle. Voilà, on nous annonce l'explosion d'une star, etc. Et je pense que moi, il y a un problème de fabrication de produits, en fait, parce qu'effectivement, l'écran n'est pas vraiment adapté à l'image. Et moi, je m'en fous qu'elle soit sincère ou pas sincère. Je ne crois pas à l'objet pop. Je ne crois pas au projet qu'on me vend. Ma suspension d'incrédulité ne fonctionne pas. Je ne crois pas à cette fiction dans le sens où je ne me fais pas avoir par cette fiction.
D'autres gens y croient parce que c'est quand même là celui qu'on entendait là, le titre, c'est devenu vraiment un tube. On a l'impression que ça va être un des tubes de l'été, et les gens l'écrivent, donc ça résonne d'une certaine manière.
On verra, ouais, peut-être.
Sophie Rosemont.
Tant mieux. Mais ma fille de 12 ans adore, oui. Jones, elle adore.
Oui.
Thomas Corlin,
quoi, ça marche. Non, mais effectivement, c'est vrai que l'exemple de Taylor Swift et de plein d'autres, effectivement, confirme que ça fonctionne comme ça, hein, tout simplement. Bon, j'ai envie de dire, bon, hein, tant mieux. Voilà, après tout.
Bon, vous n'irez donc pas la voir en concert, mais elle le sera le 29 mai à l'Alhambra, et aussi le 14 juillet.
Peut-être qu'en concert, c'est mieux qu'en studio. Mais probablement. Hein, peut-être. Moi, c'est si.
C'est pas de problème technique cette fois-ci. Mais...
Et elle va faire du cinéma aussi, donc en effet, peut-être que.
Non, mais
elle a un devenir objet cinématographique.
Je pense qu'en live, ça doit être drôlement bien. Et j'irai sans doute la prochaine fois.
Lizzo, Cause I Love You, a donc paru chez Warner. À suivre dans la dispute, Kate Lebon, Flying Lotus et le coup de cœur de Sophie Rosemont pour le dernier album de Morrissey.
France Culture. La dispute.
Gros changement d'ambiance dans la dispute. On poursuit avec la galloise Kate Lebon et son dernier album Reward, paru il y a quelques jours chez Mexican Summer. Je me suis trompée dans mon sommaire. Merci à vous, Olivier Lame, de me l'avoir fait remarquer. Il a été imaginé, apprend-on, dans la solitude du nord-ouest anglais. Le jour, elle apprenait à fabriquer des meubles. La nuit, elle composait sur son vieux piano. Un mot peut-être alors sur ce que vous pensez de ce disque. Sophie Rosemont, pour commencer.
Impressionnante beauté.
Olivier Lame.
Merveilleusement cafardeux.
Thomas Corlin.
Ben, tout pourrait être tout à fait agaçant, et je trouve qu'il est d'une étoffe très rare et même un peu dérangée.
Bon, on écoute tout de suite Mothers Magazines. Take it out. Take it outside. Divide. Thomas Corlin, qui est Kate Lebon ?
Eh bien, Kate Lebon, c'est une galloise de 36 ans qui est sur le circuit de la pop indé, on va dire, depuis environ 2008, où elle avait d'ailleurs commencé avec un EP chanté en gallois. Depuis, elle a sorti plusieurs albums. Alors, ils ont tous un peu cette allure inoffensive, mais ils possèdent tous quelque chose d'ambigu et de, je dirais, tendrement dadaïste à la fois dans les paroles et dans les arrangements. Et c'est un peu ça qui fait donc la différence à la personnalité de Kate Lebon sur cette scène. Alors ça sonne toujours un peu, pour vous donner une idée, donc c'est pas exactement ce qu'on vient d'écouter, mais avant c'était plus un peu Velvet Underground par-ci, ou alors un peu pop de chambre par-là. Mais ça laisse toujours un goût bizarre dans la bouche. Alors c'est pas une figure de premier plan, je dirais, mais elle est respectée, elle est présente. Alors on a déjà vu collaborer par exemple avec John Cale, ou récemment elle a produit le dernier album de Deer Hunter, et Reward, c'est donc son cinquième album, et je pense, on va en parler, sont plus aboutis.
Sophie Rosemont, vous aviez l'air enthousiaste.
Ah oui, je trouve vraiment cet album formidable.
Vous savez que vous allez vraiment tous les trois devoir me convaincre, parce que moi ça m'ennuie profondément. Donc mettez-vous dans cette
tête. Je vais le défendre, vraiment.
Alors, son album, oui, sans doute le plus achevé, le plus personnel, même si elle a toujours été assez personnelle. J'ai appris récemment qu'elle avait, dans le cadre d'un festival texan, réimaginé son album sous forme d'une chaise, à l'assise assez large, en bois noir, ce qui va assez bien... Elle a certaines formes de minimalisme de cette musique qui pourtant joue sur les variations autour du même thème qui est l'amour dans ce qu'il a de plus décevant et de plus excitant à la fois. Donc déjà ça, je trouve ça assez génial. Et quelque part entre la solitude, un ciel plombé anglais, la lumière californienne et puis une honnêteté complètement... complètement épargnée en fait de coquetterie qu'il y a chez elle. Je trouve que cet album Reward prouve vraiment qu'un album c'est pas seulement qu'une posture, c'est vraiment un don. Et que le mal-être n'est pas qu'une mise en scène, c'est aussi un mode d'expression, là en l'occurrence, de la très très belle musique. Moi, les quatre premiers titres de cet album, même si l'album dans l'ensemble est bon, et là pour le coup pas du tout trop long, les quatre premiers morceaux sont vraiment des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est vraiment, je les écoute en boucle, je suis absolument enchantée. Et je crois que c'est son sens mélodique qui m'épate le plus, et finalement c'est pas ce qu'on demande. Est-ce que c'est pas ce qu'on demande, tout simplement un bel album que les mélodies nous transportent, et enfin cet équilibre très précis dans l'orchestration et aussi émotionnel entre les cordes, les claviers, parfois les cuivres, et ce mélange entre audace formelle sur un titre comme Magnificent Gestures par exemple, et des titres soi-disant plus classique, on va dire la structure plus classique, comme You Don't Love Me. Donc toutes ces bonnes raisons, donc je crois que j'en ai énuméré pas mal, me la désigne comme une digne héritière, je le dis quand même, cash du Kate Bush, quoi, dans l'indépendance, dans l'inventivité, dans l'exigence, dans ce besoin de solitude qui s'ouvre à l'autre, néanmoins, cette manière de transcender la plus profonde des dépressions, hein, parce que le fait d'être abandonné, de pas être assez aimé ou de pas être aimé du tout, et aussi me fait penser sur d'autres choses, justement, l'audace à David Bowie. Et d'ailleurs, Kate Le Bon dit que pour elle, une bonne journée est forcément une journée où elle a écouté un disque de David Bowie le matin. Et rien que pour ça, je suis aussi d'accord avec elle.
Olivier Lam.
Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Sophie. C'est une artiste que j'aime énormément. J'avais découvert avec son deuxième album, je crois, parce qu'elle est intensément singulière. On utilise beaucoup le mot décalé dans la critique musicale. C'est un mot on ne peut plus éculer, mais on devrait l'utiliser une fois par an. Et là, je pense que c'est une bonne manière de l'utiliser, parce qu'elle est vraiment décalée, elle est vraiment dans son monde. En tout cas, elle est à côté de beaucoup de musiciens qui créent actuellement. Elle a vraiment sa propre manière de faire, elle a sa propre folie, elle a sa propre, son propre lyrisme, sa propre manière d'envisager un arrangement, d'envisager une mélodie. Elle travaille beaucoup comme une sorte de pelote à dérouler. On a l'impression, et avec des petites touches qui sont comme des illuminations, un sens mélodique vraiment, vraiment très fort. Je disais, elle a sa propre folie aussi. Elle a une manière de récupérer un héritage qui est là, le morceau qu'on vient d'écouter, qui peut faire penser à beaucoup de choses post-punk, aux Slits par exemple, mais aussi dans les morceaux les plus alanguis, les ballades qui sont proches d'une forme d'ambiante, elle est avec une manière de toujours de contourner le linéaire. Elle prend, c'est des morceaux qui prennent beaucoup de détours sans qu'on s'en rende tout à fait compte. Donc il y a vraiment une sorte de grâce, et parce que je pense que c'est une musicienne très instinctive en fait, et aussi extrêmement précise dans sa manière d'embrasser cet instinct.
Voilà. Thomas Corlin.
Je suis également tout à fait conquis, alors que pourtant c'est vraiment typiquement le type de disque qui pourrait avoir une espèce de préciosité un peu agaçante, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, ça joue beaucoup sur une ambivalence et une étrangeté, c'est-à-dire qu'au début on peut se dire bon voilà, c'est juste un album de pop arty très très bien fait avec une production racée. Et en fait, il y a une araignée dans le plafond, très rapidement, on s'en rend compte. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le morceau d'introduction, qui s'appelle donc Miami, qui est un morceau extrêmement minimal, mais qui a une sorte de pompe royale. Il y a cette mélodie et ce motif rythmique qui, limite, pourrait rappeler un petit peu des harmonies médiévales. Et puis ce texte très elliptique, alors apparemment, ça fait référence à un trauma qu'elle a eu à Miami, dont elle veut pas parler, mais qui en fait serait une rupture. Mais je préfère pas le savoir, parce qu'en fait, j'ai pu me projeter complètement dans cet étrange rêve qu'elle a. Et le reste du disque, alors évidemment, est plus, je dirais, enfin, moins original, puisqu'il est issu des formats très pop, mais il a toujours ce petit élément un peu décadent et solitaire et un peu claustrophobe, parce que la production, elle est très maligne, c'est-à-dire il y a très peu d'effets, mais c'est tout plein de petites trucs sonores qui suffisent à faire ambiance. Et ça m'a rappelé beaucoup en fait dans ce côté un petit peu les petites vexations, la petite mélancolie, et puis aussi le petit vice qu'il y a derrière, et de l'autre côté une forme pop très agréable à l'écoute. Ça m'a rappelé deux artistes américains qu'on cite pas assez souvent, qui est Josephine Foster, qui est une folkeuse qui fait une chose un peu étrange comme ça, on n'a pas l'impression que c'est une sorte de Brigitte Fontaine désaxée, et Lower Dance aussi, qui ont cette chose un peu sensuelle mais gênante. Et vraiment, je trouve que Kate Le Bon s'inscrit pas mal dans cette branche-là.
Moi, c'est un disque qui m'a beaucoup ennuyé, et notamment ce premier titre, Miami, dont vous parliez, Thomas Corlin. Et pour le coup, l'espèce d'étrangeté dont vous parlez tous, ce décalage dont vous parlez, Olivier Lame, je l'entends comme quelque chose de très artificiel au niveau de la mélodie, toutes les ruptures harmoniques. J'ai l'impression de les attendre et de voir le bizarre est en train de se faire. De la même manière, les ruptures rythmiques, ça ne m'intéresse pas, ça ne convoque jamais rien chez moi. Olivier, là.
Parce que pour le coup, je pense qu'effectivement, elle est dans quelque chose, elle se situe dans une continuité d'un courant, on va dire, assez intellectuel. Par exemple, moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle le rock in opposition, qui est une mutation intéressante, on va dire, du rock progressif anglais, qui a donné Robert Wyatt, ou un groupe qui s'appelle Enrica, ou qui jouait avec la chanson en intégrant des éléments de musique contemporaine, de manière effectivement un peu forcée. En même temps, c'était de son époque, mais je trouve qu'elle donc il y a quelque chose d'hirsute effectivement dans sa manière de composer et d'invoquer des éléments assez des sons pas très beaux. Par exemple, elle a un amour des sons on va dire humbles, ou on peut dire pauvres, des sons de synthétiseur un peu laid, du saxophone, etc., qui est effectivement dans une forme de militance, ou en tout cas de décalage, mais elle le fait, je trouve, avec une grande intelligence. Et surtout, elle le fait à l'intérieur effectivement d'un format, et donc qui est la chanson d'amour, que je trouve c'est toujours par touche, c'est jamais par démonstration. Par exemple, elle a un projet parallèle avec Tim Presley qui s'appelle Drinks, qui pour le coup là est vraiment une débauche de plaisanterie, de choses qui s'écroulent, etc., que moi j'aime beaucoup, hein, mais effectivement qui demande, on va dire, un certain, on peut s'accrocher à sa chaise. Là, je trouve qu'elle arrive quand même à prendre ça, à en faire quelque chose d'extrêmement poétique. Dans la première chanson, Miami, il y a une phrase que j'adore qui dit en gros le monde, enfin le ciel s'écroule, les skies are falling, et les gens s'ennuient. Et je trouve que c'est, voilà, elle arrive à attraper des choses quand même avec ça, qui, voilà, pour moi c'est tout sauf artificiel au final, même si effectivement à la première écoute on peut avoir l'impression qu'elle fait la maline. Mais par ailleurs, pour inventer, faut un peu faire le malin aussi.
Sophie Rosemont,
en fait, je trouve ça tellement accessible, ça me parle. Enfin, vraiment, ça a été immédiat. mais c'est bien aussi parfois de lutter un peu pour découvrir un disque. Moi, en l'occurrence, sur celui-ci, pas du tout. Je dois avoir une profonde mélancolie en moi. Mais oui, sans doute d'ailleurs.
Je la trouve très usée, pour le coup, très, très éculée, moi, cette mélancolie.
Parce qu'il y a quand même des morceaux très, très immédiats.
C'est Baudelaire, enfin, c'est bon.
Non, mais Daylight Matters, Home to You, ce sont quand même des titres que, pour moi, je trouve complètement immédiat, qu'on a en tête tout de suite. C'est presque des gimmicks. Vraiment, c'est au-delà de tout ce qu'on vient de dire, un très bel album de pop.
Thomas Corlin.
Il y a aussi un humour qu'il faut relever. Je veux dire, il y a ce morceau, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Lizzo qui est en train de se kiffer dans son miroir. Elle le fait un moment, elle parle. Il y a un morceau qui s'appelle Sad Nudes. Oui. Donc elle prend des photos de nues. Il y a un peu cette espèce de gaucherie, de désœuvrement un peu sinistre où elle est là en train de s'ennuyer comme ça. Et après, je peux comprendre cet effet vous disiez là, Lucille Como, c'est-à-dire ce côté un peu forcé. Donc c'est vrai qu'à la première écoute, on peut se dire, c'est un disque qui va vouloir poser un petit peu avec une sorte de, comment dire, de lubie dadaïste comme ça. Mais au fur et à mesure, quand ça se développe, il n'y a rien de forcé sur le disque. Il y a un grand naturel, et c'est à la fois un disque sophistiqué avec une humeur qui quand même se demande, se développe, qui demande à infuser, mais aussi un album de pop, quoi. Un bon
comme
album
comme plein de
pop,
disques
quoi.
De Kate Bush d'ailleurs,
effectivement, oui, tout à fait.
À laquelle on reprochait pas mal
et puis aussi d'un point de vue purement musical, clairement, enfin, la surprésence du saxophone rappelle forcément, et puis le côté un petit peu médiéval aussi rappelle forcément les derniers PJ Harvey, sur la manière dont le saxophone arrive sur certains morceaux, ça m'a forcément rebalancé là-dessus.
Olivier Lame.
Je trouve que Baudelaire, c'est un très bon référent. Voilà.
Bon, très bien, gros romantisme de Kate Le Bon. Sur sa voix, par exemple. Non, on n'a pas beaucoup parlé de la texture de sa voix, non, vous ne m'avez pas du tout
convaincu. Vous voulez qu'on dise des méchancetés, mais vous n'allez pas y arriver,
pas du tout.
Je
vais vous détailler l'amour que vous portez
parfois,
à Kate Le Bon. Non, c'est pas forcément la tonalité, c'est plus la texture de la voix, moi, qui me dérange pour le coup. Je
ne
vois pas
assez
Kate Bush
classique.
Du tout, Olivier.
Non, elle a un vibrato assez classiciste, j'ai envie de dire. Si, elle a un vibrato, Bon, bref. Elle a une manière de chanter qui est un peu désuète, mais je pense que c'est totalement contrôlé de sa part.
Mais elle a d'ailleurs, sur la question justement du côté un petit peu bien chanté, mal chanté, il y a ce morceau Magnificent Gesture qui est presque une sorte de petit tube de disco-punk. Ça rappelle, il y a quelqu'un comme Annika, une autre artiste qui vraiment a trop forcé sur ce côté-là. Elle le fait de manière un peu simple, le côté chanter un peu la no wave, chante faux, chante pas faux.
Annika, elle sait vraiment pas chanter. Hein.
Oui, c'est peut-être
pour ça qu'on l'aime. Elle posait beaucoup, Annika aussi.
Elle pose beaucoup.
Annika. Là, c'est pas le cas. On la sent un peu. elle peu fabrique ses meubles face à son district, miroir quoi. Avec ouais. l'humour gallois ouais. et aussi le désespoir le plus total. Moi, ça me fait du bien.
Il y a des bons égotripes, puis il y a des mauvais égotripes. On aura vraiment appris ça dans cette émission. En tout cas, l'album Reward de Kate Le Bon a paru chez Mexican Summer. Elle sera aussi en concert bientôt en France, le 29 mai à Bordeaux et le 8 juin à Paris. Ce sera au Trabendo. Et c'est l'heure du coup de cœur, c'est celui de Sophie Rosemont et il bat malgré tout pour le dernier album de Morrissey, California Sun.
Oui, c'est un coup de cœur à contre-courant, je dirais. Alors qu'on retire les affiches publicitaires de son nouvel album dans les rues de Manchester, qu'un disquaire anglais réputé bannit ses disques de rayon et le fait bien savoir, je vais dire du bien de California Sun, donc de Morrissey, en regrettant toutefois que la traque du racisme et de tout ce qu'on peut dire de mal et de pas bien n'ait pas atteint le marketing d'autres artistes, comme notamment Roger Waters, qui avait eu le bon coup il y a pas longtemps de marquer un énorme cochon d'une étoile de David pendant ses concerts. Mais passons.
Il faut expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est pas très clair,
qu'il a hormis ses sorties conservatrices et réac depuis quelques années, mais qu'il nie toujours. À chaque fois, il dit que les journalistes détournent ses propos. Donc, jusqu'ici, on peut dire qu'il avait le bénéfice du doute, sauf qu'il est apparu sur le plateau d'une émission américaine du soir, Jimmy Fallon, je crois, avec un badge où il y avait écrit « For Britain », que moi, je n'ai pas vu parce que le badge est tout petit, mais effectivement, c'est un badge « For Britain » à l'effigie donc d'un parti d'extrême droite anglais. Bon, donc, ce n'est pas forcément ce qu'on aime le plus. Et c'est effectivement extrêmement décevant.
Alors passons à ce qu'on aime.
Passons à ce qu'on aime, ce que j'avais découvert avant de voir cette vidéo. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu le badge en question. Donc je suis méfiante des disques de reprise depuis toujours. Souvent, j'ai trop sans intérêt. Mais ici, déjà, j'aime le parti pris du corpus, qui est majoritairement composé de protestants des années 60-70, majoritairement américaines. Et d'ailleurs, on lui reproche ça aussi de s'attaquer à ce corpus. Mais en fait, c'est plutôt ici une affirmation des valeurs du Moz, comme on l'appelle entre intimes, qu'on a connu et qu'on a tant aimé. Parce que finalement, la reprise de Morning Starship de Joe Briat, qui est l'un des premiers grands rockers queer américains, ou celle de Phil Hawks, Days of Decision, qu'on va écouter tout à l'heure, un songwriter américain suicidé à 35 ans et qui s'était élevé très vigoureusement contre la guerre du Vietnam et la ségrégation, font partie des choses dont a toujours parlé Morrissey. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que ça a été l'un des premiers artistes à clamer son admiration pour James Baldwin bien avant que celui-ci ne revienne à la mode en librairie. Parce que bon, il y a 15 ans, personne ne parlait de James Baldwin, mis à part Morrissey.
Et on sent la réhabilitation.
Il reprend aussi des chanteuses injustement oubliées, que j'aime beaucoup, comme Laura Nyro et Mélanie, tout comme des chantres que j'aime tout autant, vraiment très respectées de la protestante, Joni Mitchell et Bob Dylan que j'aime particulièrement, c'est mon jumeau. Et quand Morrissey chante It's Over de Roy Orbison, qui est le titre le moins politique de l'album, c'est sublime. Voilà, c'est moi je succombe. Ce timbre de crooner qui est complètement resté intact, faussement innocent, à la fois distancié, à la fois adepte d'une vraie grandiloquence qui peut évidemment agacer les allergiques habituels aux Smiths et à Morrissey, je l'entends. Mais moi, ça me transporte. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui me touche énormément. Et puis, il y a les paroles du final de ce disque, Some Say I Got the Devil, donc de Mélanie, qui résonne particulièrement, surtout avec la polémique actuelle, où elle chante et où il reprend. D'ailleurs, il remplace le mot girl par le mot someone, ce qui va dans la continuité de ce qu'il avait dit il y a quelques années. Je ne suis pas homosexuelle, je suis humasexuelle. Donc les paroles sont les suivantes. Certains disent que je suis le diable, certains disent que je suis un ange, mais je suis juste quelqu'un qui a des problèmes. Et ce que j'aimerais dire, ce que je ressens, la musique peut le cacher. Donc voilà, c'est un bel album qui ressuscite parmi les plus belles mélodies des années d'une époque définitivement perdue, on va dire, mais avec une voix d'or. Et j'espère que lui ne nous est pas définitivement perdu.
On écoute tout de suite un extrait de Days of Decision.
The shadows of doubt are in many a mind, looking for an answer that they're never gonna find. But please understand, you're running out of time.
for these are the days of decision. Games of stalling you cannot afford. Dark is the danger that's knocking on the door. And the far-reaching rockets say you can't reach anymore. For these are the days of decision. In the face of the people who know they're gonna win, with a strength greater than the power of the wind. You can't stand around when the ice is growing thin. For these are the days of decision.
Tandis que Sophie essaye de convaincre ses petits camarades un peu en vain. Hein. Allez, California Sun, le dernier opus de Morrissey, apparu chez BMG.
France Culture, la dispute.
Dernier disque de notre programme ce soir, Flamagra du Californien Flying Lotus, étrange objet au croisement de multiples genres, hip-hop, free jazz, électro, funk entre autres, très chic, dans lequel on croise les voix de David Lynch, Solange ou Anderson .Paak. 27 pistes hein, quand même, alors certaines sont très courtes, d'autres ont des formats beaucoup plus classiques. Un mot avant qu'on écoute un petit peu sur ce que cette écoute vous a fait aux uns et aux autres, Thomas Corlin.
Un concept album, je dirais, très pompier de soul funk psychédélique qui est jamais à la hauteur de ses ambitions.
Olivier voilà. Lam.
Désarroi.
Sophie Rosemont.
Cosmic Trip.
C'est anglais, ça ne va pas du tout, Sophie.
Non, mais j'ai alors, quasiment pas parlé d'anglicisme de cette émission
aussi,
quand même.
Si, vous voulez que je vous les cite ah. Bon, on écoute, allez, tout de suite. Yellow Belly, un des longs titres de l'album avec la rappeuse Tierra Whack.
Thank you.
Olivier Lam. Votre mission, si vous l'acceptez ce soir, c'est de nous dire qui est Flying Lotus en utilisant moins de 15 adjectifs et en une minute.
En une minute, alors Stephen Ellison, musicien californien, très influencé par diverses choses, notamment en premier par Jay Dilla, fameux producteur de rap décédé à l'âge de 30 ans, originaire de Détroit, qui est au centre, on va dire, d'une scène californienne qu'on a appelée un moment Low End Theory, mais en gros, qui est une... entre le rap et la musique électronique et le jazz, il a son label qui s'appelle Brain Feeder, qui a fini par influencer même certains jazzmen ou certains rappeurs, Kamasi Washington, Kendrick Lamar, pour ne pas les citer, qui a acquis au fur et à mesure des années une sorte d'image de maestro qui est bloqué, on va dire, quelque peu sur une forme assez psychédélique qui n'arrête pas de grossir comme une tumeur en termes de en envergure, dans laquelle on trouve de la soul, du jazz solaire, du hip-hop, breakbeat en tout genre, de la pop synthétique, de l'électronica, musique anglaise, qu'on dit imprévisible, mais qui en fait, on le verra, est de plus en plus prévisible. Et là, c'est son premier disque depuis 6 ans, et il apporte pas grand-chose par rapport au précédent. Voilà.
Thomas Corlin, vous étiez peut-être le plus sévère sur ce disque.
Effectivement, ça n'a pas du tout pris sur moi. J'ai trouvé l'album très décevant, voire anachronique pour plein de raisons. Alors effectivement, comme Olivier vient de le citer, donc il y a, c'est pourtant un artiste qui a une trajectoire très intéressante. Mais là, il se casse les dents sur ce qui, pour moi, selon moi, est quand même un exercice d'un autre âge, c'est-à-dire le concept album pompeux, comme dans les années 70, en l'occurrence de gospel au piacé, avec une thématique, quand même assez kitsch de communion spirituelle. Et il croit donc toujours nous faire décoller dans les sphères, alors qu'on a juste l'impression d'être bloqué dans un bar lounge qui veut se donner des airs un peu pointus. En diffusant un son sophistiqué. Alors l'ambition de Flying Lotus, on la voit, on la comprend tout de suite, c'est d'être une sorte de Stevie Wonder, Prince, voire Sun Ra, de la bass music, groove futuriste d'aujourd'hui.
Il y a beaucoup trop d'adjectifs.
Je sais, j'ai pas pu m'en empêcher. Et en l'occurrence, donc, on dirait qu'il aimerait un peu faire son Songs in the Key of Life, qui était cet album, donc magnum opus de Stevie Wonder dans les années 70, qui était un double album, très ambitieux. Et donc là, on le voit d'entrée, donc qu'est-ce qui nous fait une pochette absolument irregardable, collage à la Dali, comme seul Michael Jackson osait encore en faire dans les années 90.
Des flammes.
Il nous fait également donc le coup de la thématique du feu éternel, donc on a des crépitements qui donc nous servent de fil conducteur pendant tout le long de l'album, et également pas mal de références donc à la tradition donc des bandes son et de la musique progressive. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, mais là c'est quand même assez ronflant. Donc voilà, donc c'est je trouve que ça révèle un artiste avec un imaginaire pas très vivant qui se complaît aussi dans des facilités de musicien.
Sophie Rosemont, est-ce que vous êtes rentrée dans le trip?
J'apporte un peu d'amour à tout ça.
Bah, allez-y.
Le mot fusion, que je déteste sans doute autant que le terme world music, prend ici tout son sens, et pas forcément dans le plus mauvais. Moi, je trouve que c'est quand même un univers assez intéressant dans lequel il nous invite, à la fois épique, cosmique, intemporel et contemporain. Alors, j'ai été déstabilisée par cette, profusion de titres, le fait qu'il a l'impression de courir après le temps. Mais je me suis dit, justement, est-ce que c'est pas un reflet de ce qu'on vit, nous, au quotidien, de courir après le temps, d'avoir toujours espèce de contrainte à la fois générique et temporelle et spatiale, et dont il essaye peut-être de nous extirper. Lui a parlé cet album comme d'un refuge contre la douleur. Et c'est vrai que, moi, à la fin de l'écoute de ce très long album, parce que là, il faut quand même dire que 27 titres, c'était peut-être pas obligatoire, eh bien, mon quotidien me paraissait un petit peu plus loin. Il y a quelque chose d'euphorique, il y a quelque chose d'onirique qui m'a plu, même si on peut frôler l'indigestion. Mais c'est certain. Mais moi, j'oublie les histoires de Stevie Wonder, tout ça. Non, il y a vraiment, je crois, une volonté de nous dégager de tout ce qui est anxiogène. Via cet album, sans doute avec un espèce de poison, de contre-remède, en nous assommant de plein de titres, de plein de genres différents, en nous faisant explorer de force énormément de territoires sonores et énumérés par Olivier tout à l'heure. La première fois, ça fait un peu étrange, et au final, on prend goût à ce voyage.
Olivier Lam, est-ce qu'on arrive à extirper peut-être quelque chose qu'on arrive à isoler et qu'on aime bien dans ce grand
Alors moi, il y a énormément de choses que j'aime bien, mais par ailleurs, c'est un musicien extrêmement talentueux et inventif. Enfin, il y a ça ronronne assez peu. Enfin, tout à l'heure, j'en parlais de lounge. Là, on est, c'est l'antithèse de ça. On est dans une forme de production qui est tout le temps en train de chercher, on va dire, la syncope un peu différente. Mais je parlais de désarroi en introduction parce que c'est effectivement une musique qui est saturée d'informations aussi, qui est extrêmement compressée en termes de production, donc qui met tout le temps en avant des éléments. Voilà, peut-être ça, le crépitement. C'est la nature du son, c'est la texture du son qui est tout le temps gonflée. Ce qui explique aussi que ça soit aussi fatigant, mais effectivement ce feu nourrit sans cesse, il fait penser à Twitter, et il y a quelque chose qui est particulier dans sa musique, c'est que tous ses morceaux, tout est donné en fait d'emblée, dès le début, en fait dès la première mesure, les rythmes sont très forts, les mélodies arrivent très vite, et finalement on se rend compte que c'est une musique qui, contrairement à beaucoup de musique électronique, qui ne représente rien, elle ne nous montre pas des paysages, mais elle incarne une sorte de frénésie. Tout est tout le temps, on a l'impression que tous les éléments sont tout le temps orientés vers le futur, c'est-à-dire vers la suite, vers le morceau suivant. Donc il y a une espèce de frénésie, d'impression de tout le temps courir effectivement après la musique, et c'est vraiment quelque chose qui est dans sa musique depuis toujours. Et c'est très compliqué de savoir si c'est une passion, une recherche de sa part, ou si c'est complètement lié à une frénésie de création. Donc et moi j'avoue que les fans de Flying Lotus, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quand même un musicien qui est devenu majeur très rapidement, en 2-3 disques. Quand je dis majeur, je veux dire dans l'importance qu'il occupe, c'est un artiste qui aujourd'hui peut effectivement avoir Solange ou Kendrick Lamar de manière très naturelle, sans que personne trouve ça étrange que ces artistes majeurs, enfin je veux dire majoritaires, mainstream, se retrouvent sur un disque aussi, ouais, j'ai envie de dire expérimental dans sa texture. Ces gens-là me questionnent, parce que je me demande. Moi, j'ai un vrai questionnement sur le plaisir qu'on peut avoir à écouter cette musique, et le seul morceau qui me semble sortir, qui me semble avoir qui me procure un plaisir parce qu'il a une progression, c'est le morceau le plus long, qui dure plus de 5 minutes, qui s'appelle Takashi. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'écouter presque de l'abstract hip-hop des années 90. Donc j'imagine que c'est un morceau qui est en porte-à-faux avec, finalement, avec le cerveau de Flying Lotus. Donc il y a voilà, mais c'est une question qui, c'est comme beaucoup de musique électronique contemporaine, hein, elle me pose beaucoup de questions, elle me satisfait assez peu, et en même temps je ne cesse de quand même de revenir à la musique de cet artiste qui continue à me poser plein de questions. Là le plus gros, je veux dire le gros défaut de ce disque, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas bougé d'un iota, il n'a pas avancé d'un iota depuis 6 ans.
Vous parliez, voilà, des personnes qui sont invitées à participer à l'album. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il en fait des objets qu'il s'approprie totalement. On ne les reconnaît pas. Solange, elle a une voix à peine reconnaissable. Anderson .Paak, un petit peu plus, mais c'est comme des réminiscences de ce que peut faire Anderson .Paak par ailleurs, mais comme si c'était déjà très très loin et qu'on le récupérait pour en faire un truc, pour le coup, encore une fois, très égotique.
Olivier, je sais pas, c'est une histoire d'ego ou d'architecture, je sais pas.
Thomas Korn.
Bah, le casting 4 étoiles, c'est quasiment une sorte d'objet marketing, hein, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de monde. Je veux dire, ça va même George Clinton. Il manquerait plus que Moroder. Ce serait un album de Daft Punk. David Lynch qui récite un petit conte sur une histoire d'un garçon en mode un petit peu, comment dire, pièce radiophonique des années 60, science-fiction. C'est carrément caricatural. Non, je peux pas nier effectivement qu'il y a quelques bonnes idées sur l'album, c'est sûr, parce que sur 67 minutes, faut quand même qu'il y en ait quelques-unes. Il y a même quelques morceaux que j'ai plutôt appréciés, notamment celui dont on a diffusé un extrait. Moi, je trouve que c'est la forme du disque qui aplatit tout et qui annule, en fait, la plupart des bonnes idées. C'est-à-dire que, donc, il y a ce côté un peu mixtape qui est vachement employé aujourd'hui dans le hip-hop moderne et puis aussi dans la pop. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'avec une telle durée, normalement, on a envie de retourner à ce disque en pensant qu'il va se dévoiler. Et à chaque fois qu'on y retourne, moi, j'ai plutôt l'impression que ça a dévoilé ses platitudes, ses faiblesses, ses facilités. Donc, j'ai trouvé ça très frustrant.
Sophie Rosemont,
je finirai de façon tout à fait pragmatique pour faciliter la tâche à nos auditeurs. Donc évidemment Takashi, qui est un super morceau, mais aussi The Clam avec Thundercat, Thank You Malcolm et Mort avec Anderson .Paak, pour au moins débuter. S'il faut commencer par quelque part, commencez par ces morceaux et ensuite plongez-vous, même si évidemment ça s'écoute de A à Z.
Oui, c'est un objet, on ne sait pas si on peut vraiment piocher non plus.
Ah, mais je pense que ça se tente, au contraire, à trouver quelques portes d'entrée ici et là dans l'espèce de cosmos un peu étrange, on ne sait pas exactement où on met les pieds.
Bon, tentons Flamagra de Flying Lotus qui est apparu chez Warp. Et il est bientôt temps de conclure cette émission, mais tout de suite c'est le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeudi hier soir et nous donner la réponse.
La question était: quel film présenté en section Un certain regard cette année mettait en scène la première actrice transgenre de couleur à Cannes? Et la réponse était Port Authority.
À gagner ce soir des invitations pour découvrir l'exposition Jack Kirby, la galaxie des super-héros, qui fait partie de la Biennale du 9e art de Cherbourg, à voir jusqu'au 1er septembre. Quelle est la question, Joséphine?
Quel personnage Marvel, incarné au cinéma par Edward Norton, le dessinateur Jack Kirby a-t-il créé dans les années 60?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. À la prise de son, c'était Florent Bujon et à la réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver toujours sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter et bien sûr vous abonner au podcast de l'émission. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai en compagnie de Sarah Hiller-Meyer, Ingrid Lukegad et Florian Guettet, avec à notre programme une grande nouvelle triennale art et design à Dunkerque intitulée Gigantisme, art et industrie, l'exposition de Théo Mercier au musée de la chasse et de la nature. Il y aura un coup de cœur d'Ingrid Lukegad pour l'exposition Ma système reproductif de Jean-Charles de Quillac à Béton Salon. Et puis il y aura aussi un petit salon de Boris Pinault sur ce que c'est que de faire l'expérience d'une œuvre d'art en son absence.